Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Plusieurs organisations d'étudiants comme l'AFAGE et l'UNEF se mobilisent contre la réforme des retraites et participeront à la journée de mobilisation jeudi prochain. Dans votre journal, Maëlle Nizan, vice-présidente en charge des enjeux de société à l'AFAGE. Le gouvernement palestinien accuse les forces israéliennes d'avoir exécuté aujourd'hui un Palestinien à un barrage militaire en Cisjordanie occupée. Une fusillade a eu lieu dans une église catholique à Londres. 6 personnes ont été blessées. Une petite fille âgée de 7 ans se trouve dans un état critique. Au moins 8 personnes sont mortes dans un attentat hier en Somalie, une attaque à la voiture piégée. Un avion s'est écrasé au Népal, il y a au moins 67 morts. Regarde dans votre journal sur la situation dans les hôpitaux en France. Christophe Prudhomme, médecin urgentiste au SAMU 93, conseiller régional d'Île-de-France, apparenté à LFI, réagira aux annonces d'Emmanuel Macron sur la santé la semaine dernière. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h est Yann Kerlot pour Léon Battista Alberti, le magicien de la Renaissance aux éditions Albin Michel, extrait dans votre journal. Il s'estime déjà suffisamment touché par la précarité. Plusieurs organisations d'étudiants comme l'AFAGE et l'UNEF se mobilisent contre le projet de report de l'âge de départ à la retraite. Ils participeront à la journée de mobilisation jeudi prochain. Entretien avec Maëlle Nizan, vice-présidente en charge des enjeux de société à l'AFAGE.
L'AFAGE appelle à se mobiliser le 19 janvier aux côtés de l'intersyndicale, tout simplement pour s'opposer au recul de l'âge légal de départ à la retraite, qui pour nous, cette réforme de retraite pour nous, elle est juste dans la précarité. Enfin, elle va reposer uniquement sur les plus précaires. Enfin, c'est les plus précaires qui vont la financer. Nous, pour ça, c'est tout simplement pas possible. Donc, c'est sur cette mesure principale que nous, on est fondamentalement opposés au recul de l'âge légal de départ à la retraite. C'est un constat très simple, c'est que les plus précaires ont une espérance de vie qui est bien moindre cette réforme, elle va impacter principalement ce public-là. Et nous, en termes de réflexion sur cette réforme, c'est pas envisageable. C'est pour ça qu'on a fait la démarche d'appel à la mobilisation le 19 janvier, tout simplement.
Avec l'ensemble des organisations syndicales, dont les organisations étudiantes. Il y aura une mobilisation intersyndicale étudiante.
Oui, alors c'est dans l'intersyndicale de façon plus globale, avec la CGT, la CFDT, enfin les 8 syndicats pro qu'on a appelé à se mobiliser. Il y avait aussi des organisations de jeunesse qui y prenaient part. Et nous, du coup, on était directement liés à tout ça, tout simplement parce que la jeunesse est aussi directement impactée par cette réforme des retraites. On est dans un climat où c'est quand même, la jeunesse est très précarisée. Il y a aussi des incertitudes sur tout ce qui est insertion professionnelle. Et cette réforme des retraites, elle vient ajouter à tout ça une autre source d'anxiété. Qui touche du coup directement notre jeunesse que nous on représente.
Et justement, lorsque vous discutez avec d'autres étudiants, qu'est-ce qui revient le plus fréquemment dans leurs propos, dans leurs inquiétudes ?
Cette réforme des retraites, pour les étudiants, ça va être un peu lointain. Simplement, c'est un élément en plus qui vient s'ajouter à toute l'anxiété que peuvent ressentir les jeunes. Je parlais de l'anxiété de façon générale. On a l'anxiété par rapport au climat, par rapport au futur que la jeunesse elle va avoir. Il y a toutes les l'anxiété par rapport aux difficultés d'insertion professionnelle que ressentent les jeunes. Et après, il y a aussi toute la question de la précarité que vivent les étudiants au quotidien. La précarité étudiante qui est grandissante, ça a été largement mis en lumière, notamment sur les 2 dernières années avec la crise sanitaire. C'est un problème qui est plus général et plus global. Et du coup, la réforme des retraites et ce côté de précarisation, ça ajoute en fait une raison de plus sur cette anxiété et sur le dos des jeunes. Et du coup, c'est comme ça qu'ils le vivent. C'est un élément encore supplémentaire qui s'ajoute à tout ça et à ce climat d'anxiété en fait.
Cette mobilisation le 19 janvier prochain, cela va se traduire comment pour vous, par une grève également ?
Nous, les étudiants, on va tout simplement aller se mobiliser aux côtés de l'intersyndicale, aux côtés des autres organisations, que ce soit organisations syndicales professionnelles ou organisations de jeunesse. L'objectif, c'est vraiment de faire un front commun pour s'opposer à cette réforme. On a appelé les jeunes dans notre communiqué de presse à se mobiliser massivement, à aller dans la rue sur ce sujet-là pour pouvoir montrer leur mécontentement, leur désaccord avec la politique qui est menée en fait.
Et vous pourriez organiser d'autres actions suite à cette mobilisation du 19 janvier, comme des blocages par exemple ?
Alors ça, c'est pas la ligne première qu'on souhaite aborder. Après, faut voir comment tout ça va évoluer, il faut voir aussi la prise en question qui va être faite de la part du gouvernement. Après, nous, c'est pas notre premier levier d'action, les blocages, parce que pour nous, l'objectif, c'est quand même de permettre aux étudiants de pouvoir étudier. Mais, nous, sur le sujet, c'est juste que faut que la jeunesse puisse aussi faire entendre sa voix de la meilleure manière possible. Donc, nous, après, on est aussi une organisation qui se base sur ce qui va nous être, sur ce que les jeunes veulent, parce qu'on a un modèle démocratique où c'est justement nos associations qui étudiantes de différents territoires qui font aussi part de leur avis, de leur mécontentement, etc. Et l'idée, c'est aussi de se baser sur vraiment ce que les étudiants veulent et comment ils veulent réussir à me montrer leur opposition à cette réforme.
Maëlle Nizan, vous êtes la vice-présidente en charge des enjeux de société à la FAGE. Est-ce que vous pouvez nous faire part des principaux défis de cette année qui vient de démarrer pour les étudiants, ouais, comme notamment la réforme des bourses?
La réforme des bourses, nous, c'est un de nos sujets majeurs cette année. Ça fait des années qu'on demande une réforme des bourses parce qu'on voit bien que le système de bourse ne répond pas tout simplement aux besoins des étudiants, et on demande qu'il soit revu et qu'il y ait une réforme qui soit vraiment systémique, parce qu'actuellement c'est pas possible pour un étudiant de suivre ses études décemment, tout simplement. Donc nous, ça reste notre sujet majeur et central cette année. C'est un enjeu. On sait qu'il va y avoir qu'on va avoir normalement des annonces, j'espère, des avancées sur ce sujet. Après, ce qu'on demande et ça fait des années que la précarité étudiante est mise en avant, donc ce qu'on demande, c'est que les besoins de chaque étudiant soient pris en considération et que chaque étudiant puisse tout simplement vivre dans des conditions décentes et suivre ses études, parce que être étudiant, c'est pas ne rien faire au quotidien, c'est suivre ses études pour au final plus tard pouvoir travailler et pouvoir apporter aussi à la société. Et juste actuellement, on a des étudiants qui ne peuvent pas suivre leurs études dans des conditions décentes. Donc nous, c'est vraiment notre sujet central cette année, que chaque étudiant puisse tout simplement vivre décemment.
Vous déplorez aujourd'hui une accentuation de la précarité chez les étudiants?
Ça, on l'a vu ces dernières années. Après, il faut le dire, là, ça a été vraiment mis en lumière, comme je le disais tout à l'heure, par la crise sanitaire. Mais la précarité étudiante, elle ne date pas d'hier. Et ça fait des années que la FAGE se positionne pour une réforme systémique du système d'aide sociale étudiant. Et là, on a vraiment besoin que celle-ci, elle arrive. Cette mise en lumière-là, ça a montré que la précarité, oui, elle a été accentuée, parce qu'il y avait aussi l'isolement social. Enfin, il y a eu plein d'autres facteurs qui sont liés à tout ça, avec la crise sanitaire. Mais les étudiants, à côté de ça, ça fait des années qu'ils vivent dans cette situation-là, et ça fait des années que nous, on demande qu'on ait une réponse concrète à cette précarité étudiante.
L'un des changements de cette année concerne les futurs étudiants en master, avec une plateforme unique de candidature.
Ça, du coup, sur ce sujet-là, nous, on sait qu'il y a un besoin de réformer la façon dont se passent les candidatures master, parce qu'actuellement, les étudiants, c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'ils doivent faire une candidature différente pour chaque master, refaire leur dossier depuis le début pour chaque candidature. Donc nous, on sait qu'il y a un besoin et que c'est un vrai enjeu cette année aussi sur le côté académique, cette plateforme master. Après, on attend vraiment les modalités, parce que l'idée, c'est pas que ce soit une plateforme qui accentue non plus la sélection, parce que nous, c'est vraiment pas notre sujet. Le but, c'est juste de faciliter pour les étudiants ces candidatures-là et l'accès au master.
Et la ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé que tous les étudiants seront formés à la transition écologique d'ici 2025. Comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce et cette mesure?
Alors nous, c'est vraiment une mesure qu'on a accueillie. Enfin, c'était une demande qu'on avait également. Donc on l'a accueillie on était très heureux de cette annonce. Après, il faut voir comment ça va se faire dans les faits. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a... sur lequel on était heureux que ce soit enfin pris en considération, parce que ça faisait des années qu'on le demandait. Nous, on avait posé les mots au CNESE, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, que justement, il y avait une nécessité de prendre enfin cet enjeu en considération, cet enjeu qui est majeur. Donc nous, on est heureux que ce soit enfin fait. Après, il faut encore voir les modalités dans lesquelles ça va être fait, les moyens qui vont être mis en place concrètement. Mais dans l'idée, nous, on est heureux que ce soit enfin un sujet dont on puisse se saisir.
Vous êtes responsable associative, vous avez le sentiment que ce sujet est largement porté aujourd'hui par la jeunesse?
Oui, bien sûr, c'est une des préoccupations centrales de la jeunesse. Nous, c'est quelque chose qui est ressorti dans l'enquête qu'on avait fait, l'enquête FAGE Ipsos sur justement les préoccupations de la jeunesse qu'on avait fait l'année dernière à l'occasion des élections présidentielles. Oui, c'est un sujet central pour la jeunesse. Je parlais tout à l'heure d'anxiété. Les jeunes, ils ont du mal à se projeter aujourd'hui dans un futur, tout simplement parce que on le voit, les dégâts autour de nous aujourd'hui du dérèglement climatique et de toutes ces questions-là. Et du coup, les jeunes, ils sont très demandeurs, justement, qu'on puisse les former, qu'on puisse se saisir beaucoup plus de cette thématique. Donc je pense que globalement, c'est une mesure qui va être bien accueillie par les jeunes, et ils en attendent beaucoup.
Et pour revenir sur cette réforme des retraites, vous nous dites que cela renforce votre anxiété concernant justement votre projection dans le futur.
Oui, exactement. La réforme des retraites, je pense que je ne vais pas revenir sur les différentes mesures qui ont été annoncées, mais on voit bien que c'est quelque chose qui fait encore peser le poids de cette réforme sur principalement les plus précaires. Les jeunes aujourd'hui, c'est encore une pièce de plus sur le puzzle qui montre que on va dans une société qui est de plus en plus précarisante de façon globale, et du coup qui fait augmenter l'anxiété des jeunes pour se projeter dans leur futur de façon sereine.
Maëlle Nizan, vice-présidente en charge des enjeux de société à la FAGE. Le gouvernement palestinien accuse les forces israéliennes d'avoir exécuté aujourd'hui un Palestinien un barrage militaire en Cisjordanie occupée. Un homme âgé de 45 ans abattu près du village de Silwad, dans le centre de la Cisjordanie. L'armée israélienne indique avoir tiré sur un suspect qui, affirme-t-elle, a tenté de s'emparer de l'arme d'un soldat. De son côté, l'agence officielle palestinienne Wafa rapporte que des soldats israéliens ont forcé le Palestinien palestinien à sortir de la voiture avant de l'abattre à bout portant. Londres et Paris dénoncent un acte barbare après l'exécution par pendaison en Iran d'un homme qui avait la nationalité iranienne et britannique. Les États-Unis se disent horrifiés. Cet homme a été condamné à mort pour espionnage pour le compte des services de renseignement britanniques. Au moins 8 personnes sont mortes dans un attentat hier en Somalie, une attaque à la voiture piégée, attaque revendiquée par les terroristes Shebab. Cela s'est produit dans le centre du pays. Une fusillade a eu lieu hier dans une église catholique à Londres. 6 personnes ont été blessées. Une petite fille de 7 ans se trouve dans un état critique. Les fidèles étaient venus assister à une messe en hommage à une mère et à sa fille décédée en novembre. Les coups de feu ont été tirés d'un véhicule en mouvement qui s'est ensuite éloigné, c'est ce qu'indique la police. La police métropolitaine de Londres a lancé un appel à témoins pour retrouver les auteurs ou l'auteur de cette attaque. Un avion avec 72 personnes à bord s'est écrasé au Népal. Au moins 67 personnes sont mortes. L'appareil s'est écrasé entre l'ancien et le nouvel aéroport de Pokhara, dans le centre du Népal. L'invité de Pluriel ce week-end était Christophe Prudhomme, médecin urgentiste au SAMU 93, conseiller régional d'Île-de-France apparenté à la France Insoumise. Il a notamment réagi aux annonces d'Emmanuel Macron sur la santé la semaine dernière. Christophe Prudhomme.
On peut dire que oui, il a donné quelques éléments de diagnostic, mais ce qui nous intéresse, c'est pas le diagnostic, c'est le traitement. Et au regard de la gravité de la situation, les mesures qu'il nous a proposées comme traitement sont des mesures qui, pour la plupart, étaient déjà connues, ont montré leur faible efficacité par rapport aux enjeux actuels et à la gravité de la situation. Et donc, je peux vous dire que la réaction autour de moi, c'est que ça a renforcé la colère des personnels soignants parce que nous ne sommes pas entendus. Nous ne sommes pas entendus, nous avons fait des propositions très précises, nous étions déjà dans la rue en 2019. Écoutez, il y avait 3 revendications en 2019. Un plan de formation et d'embauche de 100 000 personnes à l'hôpital. Une vraie revalorisation des salaires auxquels le Ségur n'a pas répondu. Et l'arrêt des fermetures de services d'établissement et des suppressions de lits. Or là, vous voyez, je vais dans quelques jours à l'hôpital de Guingamp, c'est quand même une ville de taille moyenne. À l'hôpital de Guingamp, on va fermer la maternité et la chirurgie au mois de juin si on poursuit la politique aujourd'hui que M. Macron impulse et que M. Braun met en œuvre. Donc ce n'est pas possible. Qu'en 2019, nous étions dans la rue et on demandait un plan de formation et d'embauche de personnel. Pour former une aide-soignante, il faut 1 an. Pour former une infirmière, il faut 3 ans. 2019-2022, c'est 3 ans. Voilà. Donc la question, elle est simple. Ils n'ont pas répondu à nos demandes pour une raison très simple, c'est qu'ils créent sciemment cette pénurie pour poursuivre les fermetures massives de lits. Voilà, pour tuer le service public et que la seule alternative pour ceux qui pourront se la payer, ce soit les cliniques privées, où il faut aller avec sa carte vitale et sa carte bleue. C'est ça la logique de M. Macron. M. Macron poursuit une politique libérale de casse du service public qui va nous mener à un système à l'américaine. On le voit, il essaye de sauver Orpea dans les EHPAD, qui est un véritable scandale, plutôt que les mettre sous tutelle et de leur faire faillite et de récupérer les établissements. On continue à bricoler avec l'hôpital public, des cliniques privées qui sont dans les mains de grands groupes internationaux qui investissent en France pour avoir le meilleur retour sur investissement pour les dividendes de leurs actionnaires. Et moi, je souhaiterais qu'il y ait un référendum avec une question. Est-ce que la santé doit relever exclusivement du secteur public et qu'on en exclut toutes les activités marchandes? Je pense qu'on gagnerait le référendum et là, on pourrait reconstruire quelque chose de sérieux, tant sur la question de l'offre de soins, de l'organisation du système, que de son financement, parce que vous savez que entre la sécurité sociale, les complémentaires et les surcomplémentaires, nous avons les coûts de gestion du système qui sont les plus élevés au monde après les États-Unis. Voilà. Et l'argent, il va bien dans les poches de quelqu'un, il va dans les poches des compagnies d'assurance qui aujourd'hui sont majoritaires sur l'offre de l'assurance maladie complémentaire. Les mutuelles sont en train de perdre le marché. Voilà, donc il y a un moment donné, il faudra bien qu'on vienne sur des questions politiques fondamentales et qu'on arrête de détruire les services publics. Vous savez, on a la même destruction d'un autre grand service public qui continue à mobiliser principalement des fonds publics, qu'est l'éducation.
Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, conseiller régional d'Île-de-France, apparenté à LFI, il était l'invité de Pluriel ce week-end, émission présentée par Loïc Barrière, l'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h, et Yann Kerlot pour Léon Battista Alberti, le magicien de la Renaissance aux éditions Albin Michel, un livre qui nous fait découvrir un philosophe qui s'intéressait à tous les sujets, notamment l'architecture, l'occasion de s'intéresser aussi à la Renaissance. Yann Kerlot.
Je pense, si vous voulez, qu'il faut déjà, peut-être dans l'esprit des Français et de ceux qui nous écoutent, quel que soit l'endroit dont ils viennent, peu importe, je crois que ce qu'il faut surtout dire, c'est que cette Renaissance florentine a été, contrairement à ce que nous pensons, un temps de violence, de guerre, et avec que ce soit à la curie romaine et donc au Saint-Siège vis-à-vis des papes qui devaient régner, là, cette Renaissance, il faut que nous cessions en France de la voir comme une chose un peu idyllique, parce que ça a été pendant très longtemps quelque chose de très très violent. Alors là aussi, l'origine de Léon Battista Alberti, c'est une grande famille du 12e et 13e siècle qui a été très marquée par la dynastie et la lignée des Alberti, qui étaient essentiellement banquiers, des banquiers très connus, puisqu'ils étaient très actifs non seulement dans leur pays, bien sûr, qui était une ville ou une autre d'Italie, des villes-états, il faut pas oublier ça, c'est une notion que nous n'avons pas en France, des villes-états, nous n'en connaissons pas. Une ville-état, c'est un endroit où on peut effectivement, à tout moment, être racheté par un autre pays, c'est-à-dire que tout d'un coup, Naples va être acheté par l'Anjou, en France. Donc, si vous voulez, c'est une notion très étrange pour nous et que nous ne connaissons pas, les trois quarts des gens ne connaissent pas ce concept. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que ensuite, les Albizzi, qui étaient donc ces banquiers très importants, ils se sont intéressés aux soieries et à tout ce qu'elles peuvent représenter, mais aussi aux fourrures, aux brocarts, à la soie. Et il y a eu parmi eux, en dehors des banquiers, des gens qui ont vraiment fait le maximum pour ces étoffes afin qu'elles fussent vendues, eh bien, à des gens qui étaient capables d'être dans une cour princière ou royale, et où il y avait évidemment une vie de cour très importante.
Yann Kerlot, il est l'auteur de Léon Battista Alberti, le magicien de la Renaissance aux éditions Albin Michel. Il est l'invité à 19h de la Bibliothèque de Radio Orient, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.